Mais maintenant, c'est d'abord François, ensuite vous, Fran, qui vont parler pour 10 minutes, et ensuite à vous de vous exprimer.
Ça, c'est bon pour vous.
Peut-être pour moi, le premier point, parce que j'ai vu que j'étais un petit peu en retard, j'avais des choses un peu trop longues, il y a un point que j'ai passé qui est lié avec une question qui a été posée, sur le fait que les machines, on les a programmées pour faire quelque chose. Donc, pour revenir sur le point que des machines peuvent faire de l'apprentissage, il y a une chose qui peut paraître étonnante, c'est qu'il arrive que les machines, à la fin, résolvent des tâches qu'on ne sait pas résoudre. Donc, il y a un exemple récent, il y a un laboratoire d'intelligence artificielle au Canada, avec un chercheur qui s'appelle Geoffrey Hinton, et il y avait un concours organisé par Merck, le labo pharmaceutique, où ils fournissaient des descriptions de molécules sous la forme de longues séries de chiffres qui représentaient certains aspects certains aspects des molécules, certains aspects de la conformation moléculaire de certaines molécules de médicaments. Et il fallait prédire si les molécules étaient actives ou pas. Et en fait, c'est le labo de ce Hinton qui a gagné, en faisant un système qui apprenait, en prenant plein d'exemples de molécules, parce que Merck fournissait ça, on donnait des exemples de milliers de molécules en disant actif, pas actif, actif, pas actif, pas actif, pour certaines maladies. Et donc ce labo de gens qui ne comprenaient rien à la biologie, enfin en tout cas pas à la biologie de médicaments, absolument rien au drug design, à la fin a développé une technique informatique qui a battu des techniques développées par des laboratoires qui eux étaient spécialisés dans le domaine. Donc c'est juste pour dire que cette espèce de magie où la machine à la fin réussit à résoudre une tâche sans qu'on sache comment, c'est au point que, et même moi dans l'expérience que j'ai fait moi, parce que j'ai fait des trucs qui sont un autre contexte un peu dans le même genre, la même chose, c'est-à-dire à la fin avoir un programme qui n'est pas capable de vous dire oui cette molécule va soigner la maladie machin, alors que je ne connais rien en chimie, j'ai toujours été très très mauvais, et en biologie pas loin. Donc c'est juste pour dire que les techniques d'apprentissage permettent vraiment de concevoir des systèmes qui peuvent traiter de l'information et résoudre des problèmes et extraire ce qu'on appelle de la sémantique, c'est-à-dire extraire du sens de l'information, sans qu'on leur ait dit comment le faire. Alors maintenant, pour revenir plus précisément à la réponse à ce qu'a dit Wolfram, donc essentiellement, si, j'ai noté quelques points qui ont l'air importants, qui le présentent comme spécifique à l'humain. Donc, le premier, c'était ce que j'appellerais des capacités introspectives, c'est-à-dire les capacités qu'a l'humain à réfléchir sur lui-même. Mais ça, un système informatique peut très bien le faire. C'est extrêmement facile de faire un réseau de neurones qui est en partie capable de se voir, de voir comment il fonctionne et en tirer des conclusions. Être capable de se dire « Ah, mais quand je fais ça, il faudrait que je fasse ça. » Donc la capacité introspective, de mon point de vue, n'a rien de magique. C'est juste avoir un système qui est capable d'observer son propre fonctionnement. Et c'est tout à fait faisable. Ça se programmerait assez facilement. Le deuxième argument, qui était l'argument du rheostat, qui est un argument que je ne comprends pas bien, parce que c'est un argument qui consiste à dire parce qu'il y a des machines simples qui n'ont pas de conscience, alors les machines compliquées n'en auront pas. Un rheostat, clairement, on peut à peu près penser qu'il n'a pas de conscience, mais le point est précisément, c'est comme dire que si un neurone n'a pas de conscience, donc l'humain n'a pas de conscience. Ce n'est pas parce qu'un simple thermostat n'a pas de conscience que à nouveau, une machine complexe n'aurait pas. Un autre argument qui est la différence entre la simulation et le vrai processus. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est qu'il existe déjà des prothèses, en particulier des prothèses auditives, qui remplacent clairement une partie de ce qui est fait normalement par les tissus nerveux et qui sont remplacés par des systèmes électroniques. Pareil pour l'œil, c'est-à-dire qu'on peut mettre des rétines artificielles, il y a une partie du nerf optique et de toute une partie qui est déjà du tissu nerveux, qui de fait appartient déjà au cerveau, qui est fait complètement numériquement par simulation. En quoi c'est une simulation? Si à la fin on a remplacé un bout du cerveau qui ne marchait pas bien par un device électronique qui est complètement, on ne peut pas imaginer plus machine, et qui à la fin fait que l'humain qui en dispose a la même expérience de vie que s'il avait eu le bout de cerveau qui faisait la même chose, là on voit que la notion entre la simulation et la réalité devient extrêmement confuse, parce que ça vaut, est-ce que c'est une simulation? Est-ce que l'implant dans l'oreille qui c'est le traitement du signal qui a toute une simulation et prend des octets en entrée et des octets en sortie, n'empêche qu'à la fin, quelqu'un arrive à entendre. Mon dernier point, ce sera la chambre chinoise. Mais mon avant-dernier, c'était cet argument sur si on simule de la glace, elle n'est pas froide. Ça, c'est une question à nouveau de point de vue, parce que vous pouvez très bien imaginer qu'on simule une intelligence artificielle dans un monde où on simule de la glace, et elle trouve froid. C'est-à-dire qu'à nouveau, on tourne en rond. Donc, si vous acceptez l'idée qu'une machine peut être consciente peut très bien simuler une machine qui vit dans un monde simulé et elle touche la glace et la froid parce qu'on l'a construit comme ça. On a fait de l'évolution, on lui a dit on la met à ne pas être trop froid parce que ça lui fait, c'est pas la fonction qu'elle cherche à maximiser. Et elle va, à nouveau, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que, effectivement, si une machine ne peut pas être consciente, une simulation n'est qu'une simulation, mais si une machine peut être consciente, une simulation, elle devient plus qu'une simulation. Et pour finir avec la chambre chinoise, parce que c'est un peu un argument qui revient dans tous les débats sur la conscience, alors plus philosophique, donc je suis à nouveau un peu loin de mon camp de base, là, je commence à prendre les mais. Donc l'idée de la chambre chinoise, c'est cette idée que. Alors que d'ailleurs, moi je comprends peut-être d'une manière un peu différente que la manière dont il y a d'autres compris ça. Donc il y a ce premier niveau qui est de dire on a des gens qui ne parlent pas une langue et ils arrivent à sembler passer le test de Turing pour des gens à l'extérieur. Or, eux n'ont aucune notion, aucune impression consciente de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, CQFD, on peut avoir un processus non conscient qui passe au test de Turing. Donc, le premier. Si l'argument c'est de dire eux n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, donc. On peut passer des années sans être conscient, c'est pas du tout convaincant, parce que le problème c'est est-ce que le système que ces individus composent, lui, est conscient. C'est que ça revient exactement à la question qui a été posée. C'est-à-dire que ça reviendrait à nouveau à dire ce neurone n'est pas conscient, ce neurone n'est pas conscient, ce neurone n'est pas conscient, ce neurone n'est pas conscient. Donc l'espèce de grosse structure, de traitement d'information qui le constitue, n'est pas conscient. C'est pas parce que chaque unité n'est pas consciente que l'ensemble ne l'est pas. Après, moi, la manière dont je comprends la chambre chinoise est un peu différente, c'est de dire, regardez, parce qu'il y a une variante, moi, la variante que je connais, c'est vraiment, il y a une personne qui a un gros livre, et dans le gros livre, il y a, si on me dit ça, il faut que je dise ça, si on me dit ça, il faut que je dise ça, si on me dit ça, il faut que je dise ça. Et donc, lui, c'est un processus qui est extrêmement simple. Tout ce qu'il fait, il entend une phrase, il tourne son truc par ordre alphabétique, on m'a dit bonjour, je réponds bonjour. Après, on me dit ça va, il reprend son livre, et il répond ça va. Et donc là, l'argument, moi, tel que je comprends, c'est de dire, ce truc-là passe le test de Turing et il est tellement simple que c'est évident qu'il n'est pas conscient. Donc je suis d'accord avec cet argument si le livre pouvait exister. Mais le livre ne peut pas exister parce que la combinatoire, le nombre de discussions que vous pouvez avoir est tellement grand qu'aucun livre ne peut physiquement exister qui contiendrait suffisamment de questions et de réponses pour passer le test de Turing. Un simple jeu d'échecs qui est beaucoup plus simple qu'une conversation. Et déjà, on ne peut pas faire un livre qui contiendrait tous les coups d'échecs. Donc ensuite, l'argument commence à devenir un petit peu fragile, parce qu'on peut dire, ah oui, mais d'accord, c'est pas un livre, c'est un truc avec des disques durs et des machins, et puis j'ai une manière d'indexer, de compresser. Mais ça commence à devenir beaucoup plus compliqué, parce qu'à la fin, vous allez construire une machine qui est très compliquée. L'argument de me dire, c'est évidemment trivial, donc il n'est plus là, parce que vous avez des algorithmes très compliqués qui tournent dedans, donc vous ne pouvez plus me dire, c'est pas conscient. Donc moi je maintiens que si... Alors il y avait un autre, l'argument d'Elisa, et j'aurais une anecdote sur le sujet qui aggraverait peut-être, malheureusement je jouerais contre mon camp, mais quand j'étais plus jeune, j'étais mesquin, j'avais fait un programme qui se branchait sur des trucs de chat, et il y avait une liste de 40 phrases, et dès qu'il recevait un message, il prenait une phrase au hasard et il répondait. Donc c'était encore pire que Elisa, parce qu'il ne tenait absolument pas compte de ce qu'on lui avait dit. Et alors, comme j'étais mesquin, il avait tendance à se faire passer pour une fille, enfin bref. Et j'ai vu quelqu'un discuter 1h45 avec. Donc là, effectivement, c'est un peu embêtant pour le test de Turing, parce que ça veut dire que cette personne... Alors, après, ça pose plein de questions philosophiques très intéressantes, parce que cette personne qui avait discuté pendant une heure avec n'avait pas eu de chance, avait posé une question, la réponse avait été cohérente, avait posé une deuxième question, la réponse avait été cohérente, avait posé une troisième question, la réponse avait été cohérente, il avait posé 5 questions, et pour des pures fluctuations de hasard, il avait eu 5 réponses très cohérentes. Bonjour, ça va, tu viens d'où, de Hollande, enfin, tout marchait très bien. Et donc après, il avait beaucoup de mal à se convaincre qu'en fait, ce truc-là n'avait aucun sens. Et donc, est-ce que ce programme, qui lui était vraiment stupide, avait passé le test de Turing ce jour-là? Ça, je vous laisse les yeux. D'un autre côté, la personne qui parlait n'avait pas, il avait pas spécifiquement dit « Votre but, c'est de prédire est-ce que c'est une machine ou pas ?» Parce que là, on arrive vite à poser des questions. Donc il était plus... c'était un peu ce que disait le programme. Si on n'est pas du tout préparé, en fait, on a peut-être ce qu'on appelle un bot, donc un programme qui parle, on a tendance à projeter de la logique et de l'intentionnalité sur du monde. Voilà, donc... Là, j'ai joué contre mon camp pour le dernier.